Lorsque j'ai lu avec enchantement, comme vous, l'autobiographie dialoguée du père Varillon avec Charles Hélinger il y a 25 ans, j'ai été intrigué par la mention qu'il faisait de Fénelon comme étant, je le cite, l'un des trois génies dont il se disait pétri, à côté de Wagner et de Claudel. Sur ces deux-là, il s'explique longuement dans cet ouvrage et sur Claudel ailleurs, mais sur Fénelon, pas grand-chose. Plus tard, bien des années plus tard, mes travaux sur la mystique au XVIIe siècle m'ont conduit, bien sûr, à Fénelon. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert le livre que le père Varillon lui avait consacré en 1954, son premier livre, près de 400 pages. Il a été très vite épuisé, publié chez Aubier. C'est une anthologie précédée d'une introduction à la théologie, à la philosophie et à la spiritualité de Fénelon, 140 pages très serrées. Il s'agit d'une étude technique et rigoureuse qui m'a permis d'abord de mesurer la qualité de la réflexion théologique de François Varillon et de son information. Le père Varillon aurait pu être un grand professeur de théologie. Heureusement qu'il ne l'a pas été. Son audience n'aurait certainement pas été aussi large. J'ai pu mesurer aussi à quel point Varillon avait compris la grandeur de Fénelon à une époque où celui-ci était encore largement méconnu. De la querelle du couillettisme, on retenait la victoire de l'aigle de Meaux sur le cygne de Cambrai. Et à l'université comme dans l'église, c'était Bossuet qui avait le beau rôle. Il incarnait le mâle génie français autour de la guerre de 14, alors que Fénelon, penseur souple du mysticisme, incarnait une forme de romantisme. C'était la bataille entre classicisme et romantisme dont le cœur de Fénelon, de Varillon, avait été le champ, comme vient de nous l'expliquer dans sa jeunesse, comme vient de nous l'expliquer M. Fouilloux. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Depuis la dernière guerre, Fénelon est maintenant largement réhabilité dans l'Église et à l'université. Les très nombreuses études et publications qui lui ont été consacrées depuis une trentaine d'années l'attestent. Dans le train, je lisais les épreuves, les manuscrits qu'une jeune et brillante universitaire consacre à une étude de Fénelon, philosophe et mystique, qui va bientôt paraître au Seuil. J'ai cru comprendre en troisième lieu pourquoi Varillon s'était tellement intéressé à Fénelon. J'ai cru comprendre. À mon avis, ce n'était pas seulement pour des motifs purement intellectuels et spéculatifs, c'était aussi, et peut-être, pour des raisons existentielles, personnelles. Ce sont ces raisons que je voudrais exposer devant vous. Elles comportent naturellement une grande part d'hypothèses, parce que Varillon n'a pratiquement rien laissé sur sa vie intérieure personnelle. Et les témoins que j'ai rencontrés n'ont pas su me répondre lorsque je les ai interrogés sur les raisons qui avaient poussé Varillon à se passionner pour Fénelon. Je vous présente donc mes hypothèses. Vous pourrez juger vous-même de leur pertinence et de leur cohérence. J'ajoute que j'ai présenté ces hypothèses dans un article paru dans la revue Christus, qui est ici au mois de juillet dernier. C'était assez maladroit de ma part. D'ordinaire, on fait d'abord la conférence, puis après on en tire un article. Mais je me suis laissé persuader par les affectueuses pressions de mes amis de la revue Christus, qui tenaient absolument à avoir cet article pour le début de l'été. Je serai donc conduit à me répéter, parfois littéralement. Ceux qui ont lu mon article, je ne pense pas qu'ils soient quand même très nombreux parmi vous, voudront bien m'excuser. Quand il s'agit de Varillon, on ne se lasse pas des répétitions. Il faut partir, je crois, de la tension qui a toujours habité Varillon et que M. Fouilloux vient d'évoquer de façon magistrale et tellement bien documentée. Si j'avais eu connaissance de résultats de ses recherches.